Ireland. Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
My grandfather, Frederick Trump, came to the United States in 1885. He joined the Great Gold Rush. He did fantastically well. He loved this country. But you know what? I love Karlstadt also.
Bonjour à tous. Alors que le monde entier se met à l'heure américaine, c'est donc la question de la semaine. Qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump s'installera à la Maison Blanche? Réponse dans la nuit de mardi à mercredi. Le 58e président sera-t-il une présidente ou alors le descendant d'un immigré allemand aux États-Unis, originaire d'une localité du sud de l'Allemagne? Précision de Julien Méchaussier.
1200 âmes, une église sur la place principale, des toits aux tuiles rouges et des vignes tout autour. C'est de ce petit village Karlstadt qu'a émigré le grand-père du candidat républicain. Friedrich Trump, né en 1869, traverse l'Atlantique à l'âge de 16 ans. Le fils de viticulteur souhaite à tout prix échapper au service militaire et se rend donc aux États-Unis sans les papiers requis. Pourfendeur de l'immigration, Donald Trump est donc le petit-fils d'un immigré illégal. C'est la réalisatrice Simone Wendel, elle aussi originaire de ce village, qui a levé le voile sur ses origines germaniques dans le documentaire Kings of Karlstadt. Pour son film, elle rencontre Donald Trump en 2011, comme il se doit au dernier étage de la Trump Tower. L'homme d'affaires confie alors à Simone Wendel « Oui, je suis ponctuel, j'aime les choses bien faites, c'est ça la culture allemande. » Une fierté de ses origines qui n'a cependant pas toujours été mise en avant par l'entourage de Trump, de peur de raviver un sentiment anti-germanique parmi les électeurs. Mais son équipe de campagne a changé de stratégie. Si Trump n'hésite pas à diaboliser Angela Merkel et sa politique d'accueil des réfugiés, il aime citer ce grand-père dont il aurait hérité de valeurs typiquement allemandes, comme le sérieux et l'ardeur au travail. Sans mentionner pour autant que cet aïeul, pas très heureux en affaires aux États-Unis, a été à la tête d'une maison close au Canada. Pas de quoi se vanter en effet avec les scandales sexuels qui visent le prétendant à la Maison Blanche. Un enfant du pays dont se passerait bien Karlstadt, le petit village viticole, a vu passer des dizaines de journalistes à la recherche du passé familial de Donald Trump. Pas très heureux de cette nouvelle publicité, l'office de tourisme, inquiet pour l'image de Karlstadt, a décidé de ne pas communiquer sur Donald Trump.
Certains en parlent comme le Davos des geeks. Le Web Summit ouvre ses portes ce lundi, mais pour la première fois se délocalise. Après Dublin, c'est Lisbonne, la capitale portugaise, qui accueille cet événement où plus de 53 000 personnes sont attendues. Elle représente 15 000 entreprises de 165 pays différents. Ce sommet mondial des nouvelles technologies devrait avoir des retombées directes de 200 millions d'euros sur l'économie du Portugal. C'est donc un défi, mais aussi une consécration pour un pays et une ville qui ont rattrapé leur retard et connaissent un boom des start-up. Parmi ces dernières, Petable, une plateforme qui facilite grandement la vie des propriétaires d'animaux de compagnie. Reportage de Marilyn Darcy.
Contrairement à ses congénères, la chienne Hervilia est douce et silencieuse. Dans la salle d'attente du vétérinaire, elle attend sagement d'être examinée. Vanessa, sa maîtresse, est adhérente du système Petable, une plateforme pour animaux de compagnie.
Le système me permet d'avoir sur le profil de ma chienne toutes les consultations qui vont la concerner. Si vous me demandez en ce moment quand elle a été vaccinée, je ne sais plus si c'était durant l'été ou avant les vacances. Alors qu'avec l'application, toute l'information est disponible immédiatement. On a toujours son téléphone portable avec soi. Et je sais que le prochain vaccin, c'est dans un mois. Je suis là aujourd'hui pour un traitement contre les parasites et pour la consultation de routine, car la chienne a 9 ans.
Outre le système d'alerte sur les soins à apporter à la chienne Hervilia, Vanessa se sent particulièrement rassurée lorsqu'elle doit s'éloigner pour son travail. En cas de problème, sa chienne n'est pas en danger.
J'ai une vie professionnelle mouvementée et j'ai 2 enfants en bas âge. Hervilla fait partie de la famille. En fait, on fait des économies car je fais une meilleure prévention. Je n'oublie plus les vaccins et le traitement antiparasite.
Oui, Hervilla.
Simple d'usage, l'application est efficace grâce à la plateforme qui permet l'accès au planning du vétérinaire. Joana Pereira, la praticienne, peut gérer à sa guise sa clientèle.
Moi, je reçois chaque semaine les rendez-vous des clients, que ce soit pour les vaccins ou les consultations générales. Je sais qui est en retard pour les soins, donc ça me permet de planifier mon travail, d'organiser ma semaine, de contacter les propriétaires des animaux pour leur rappeler les préventions et avoir un planning modulable pour chacun.
Pendant la consultation, l'application Petable permet aussi de gagner en efficacité.
Moi, je passais mon temps à demander aux clients dans le cabinet « Vous avez fait la lutte contre les parasites ? C'est mensuel. Ah non, j'ai oublié. Et le traitement pour les parasites internes, comme le ténia, pour les gens qui ont des enfants à la maison, c'est vraiment important, c'est contagieux. Les gens ne se souviennent pas de tout ça lors des consultations. Alors je donnais un post-it, un calendrier, bref, mille et une stratégies, mais rien ne marchait. Alors qu'avec l'application, les utilisateurs arrivent à suivre le planning toute l'année, en étant plus rigoureux et réguliers. Et ça se voit, mes patients sont en meilleure santé.
Seuls les vétérinaires paient l'application, mais Joana, qui s'acquitte de 15 euros d'adhésion mensuelle, récupère vite son investissement. Bruno Farigna a eu l'idée de créer cette plateforme il y a 2 ans. Il connaissait les besoins, il est lui-même vétérinaire. Sa société Petable a bénéficié et bénéficie des avantages d'une start-up avec incubateur, accélérateur, financement et espace de travail. Indispensable et sécurisant pour Bruno qui voit le futur d'un bon œil.
On tient compte des retours des usagers. Notre idée, c'est de nous adapter le plus possible, de coller aux besoins réels des utilisateurs. Ça, c'est notre grand avantage. On a réussi à passer le cap charnière pour les start-up. Au départ, à l'origine, c'était une idée et 2 vétérinaires. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe de 12 personnes. On a un réseau de 200 cliniques vétérinaires adhérentes et 35 000 utilisateurs de l'application dans plusieurs pays. Si on n'avait pas été dans le cadre de soutien aux start-up, avec cette manière si particulière de travailler, cet écosystème créé à Lisbonne pour soutenir les start-up, tout aurait été extrêmement différent et plus difficile.
Le sommet du web qui démarre à Lisbonne est une consécration pour la capitale. L'inscription coûte, c'est vrai, 1500 euros pour une seule journée, mais sans frais de voyage, comme s'il s'agissait d'aller à Dublin où se déroulait précédemment le sommet. Pour les startups comme Petable, c'est une aubaine et la chance de multiplier les contacts. Yo, this is 47. DMG. Yo.
Tamam est rappeur, il est aussi l'un des membres de la famille Jamour, des réfugiés syriens dont le journaliste Fabien Perrier, pour le site Les Jours, a suivi le périple pendant 6 mois. L'histoire commence sur le port du Pirée à Athènes pour se terminer en France, à Saint-Nazaire. Ils racontent au quotidien leurs angoisses, une façon aussi pour le journaliste de donner un visage à la crise des migrants. Fabien Perrier explique d'abord à Catherine Roland pourquoi il a choisi cette famille précisément.
Moi, je voulais montrer qui étaient les réfugiés qui arrivaient. Aujourd'hui, la sociologie des migrants a un petit peu changé. C'est plus des familles. Et la deuxième chose, c'est que dans les jeunes, il y a toujours des jeunes éduqués qui parlent anglais, qui ont des rêves. Et donc, je voulais un petit peu entendre ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient poussé à venir en Europe. Et Tamam était là avec une casquette à l'envers, un casque sur les oreilles. Et tout de suite, j'ai eu envie de lui parler. Et son histoire valait d'être racontée pour ce qu'elle révélait de l'ensemble des migrants qui étaient sur le quai.
Alors Tamam, c'est l'aîné hein, des enfants. En tout, il y a donc les parents. Mm-hmm. Je crois qu'ils sont cinq enfants en tout.
Ils sont 5. Un qui est déjà arrivé en Allemagne et 4 autres qui sont avec eux.
Et en fait, comment la famille a accepté finalement que vous les suiviez tout au long de leur périple ? Est-ce que ça a été facile justement de les convaincre ?
Quand j'ai vu cette famille qui était dans un camp sans sanitaire, sans douche, j'ai proposé à Tamam et à ses frères de venir se doucher chez moi. Ce qu'ils ont fait et au fur et à mesure, une forme d'histoire s'imposait à moi. Plus tard, j'ai proposé, après leur avoir dit, voilà, j'ai déjà fait 1 ou 2 reportages sur vous, mais moi, j'aimerais suivre votre histoire sur la durée. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que qu'ils étaient prêts à courir ce risque avec, je trouve, une forme de courage, mais aussi de générosité. C'est-à-dire qu'ils ont répondu très régulièrement, sans me dire trop souvent, s'il te plaît, ça ne le raconte pas.
Ouais, donc six mois que vous les avez suivis, vous rendez compte de leur désespoir, de leur espoir, et vous racontez aussi leur vie, parce que c'était des gens finalement assez aisés. Ils parlent d'une vie rêvée qu'ils avaient à Salamieh, en fait, en Syrie, la maman qui possédait un salon de coiffure, un souhair, et Mahmoud qui avait une usine, je crois.
La maman, elle possédait le plus grand salon de coiffure de la ville. Je crois que c'est un salon qui tournait vraiment bien. Et le père avait à la fois une usine de fabrication de carrelage. Et quand il a senti que la guerre allait détruire son économie, il s'est reconverti en agriculteur. Il avait une ferme qu'ils m'ont montré déjà sur Google Maps.
Et vous racontez justement l'attente, l'ennui, les amours qui sont suspendus aux décisions des gouvernements européens pour pouvoir passer, quitter la Grèce. Ça dure longtemps, effectivement, leur séjour en Grèce, parce que eux ont choisi la légalité pour passer.
Eux ont choisi la légalité, je crois, pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que la Grèce est un pays qui vit une crise économique terrible. Un tiers de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, et en même temps une population qui a accueilli assez généreusement ces réfugiés, tout en leur expliquant que les frontières étaient fermées. La deuxième chose, c'est que ils se sont dit, mais on a déjà mis notre vie en danger pour venir, est-ce que ça vaut le coup de continuer quand on entend parler de cette relocalisation? Et très vite, ils ont dit, nous allons voir comment faire pour entrer dans cette voie.
Alors, ce n'est pas en Allemagne qu'ils vont atterrir, mais en France et dans l'ouest de la France, à Saint-Nazaire.
À Saint-Nazaire, ils l'apprennent au mois de septembre, quelques jours avant de partir. Et depuis qu'ils y sont, ils sont très contents. Déjà, ils se sentent au calme. Ils sont très sereins. Ils dorment beaucoup, beaucoup.
En même temps, ils ont découvert pour la première fois, ils ont un chez-eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un appartement avec 3 chambres. Voilà, d'ailleurs, à un moment donné, ils doivent, pour des formalités administratives, partir à Nantes. Le plus petit est complètement paniqué et dit « je veux rentrer à la maison ».
Ils sont là maintenant, ils ont effectivement un chez-eux, mais est-ce qu'avoir un chez-soi veut dire qu'on est chez soi? C'est complètement différent. Des enfants qui ont été transportés dans différents endroits, qui ont dû faire des parcours à pied, qui sont des parcours très durs. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la saison 1, par exemple, on raconte que ta maman a été frappée lors de la traversée de la Syrie. Donc, je pense qu'il y a aussi un risque qu'il y ait des séquelles de ce genre d'événements. Donc, ces enfants, comment vont-ils s'adapter? On voit que Aram, le plus jeune, il est aujourd'hui plus agité qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Et en même temps, il a des peurs. Quand il est dans une voiture et qu'il va loin de son appartement, il se demande où il va. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose de très inquiétant et que les associations et le gouvernement aussi, dans son rôle de distribution des finances, doit prendre en compte, puisque c'est une vraie question pour l'avenir de nos sociétés, que celle de l'intégration des populations réfugiées qui, à mon avis, on ne faut pas du tout l'oublier, sont d'abord parties parce qu'elles souffraient de la situation dans leur pays. C'est un choix contraint.
En conclusion, est-ce qu'on peut dire que vous avez voulu donner un visage à ce qu'on appelle la crise des réfugiés ou des migrants, selon le terme, pour éviter justement la banalisation des mots, la banalisation de la situation?
Un visage, 7 visages. Et j'aimerais que les auditeurs puissent lire, même si les jours est en accès payant, mais puissent le lire pour essayer de comprendre ce que peuvent ressentir les réfugiés, parce que j'espère que j'ai réussi à en expliquer un tout petit peu.
Fabien Perrier avec Catherine Roland, le lien du site Les Jours à retrouver sur notre page Accent d'Europe. D'un côté, une personne sur 9 ne mange toujours pas à sa faim dans le monde. De l'autre, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année sur la planète. Cela correspond au tiers des aliments produits. Rien qu'en France, 38 kilos de nourriture consommable sont jetés chaque seconde. Alors à Paris, un restaurant a décidé de réagir de façon pragmatique. Le Freegan Pony, restaurant végétarien situé sous le périphérique, sert exclusivement des produits destinés à la poubelle et parfaitement consommables. C'est un reportage d'Antoine Jeuffin.
Ça y est, là, on est à Rungis.
On vient d'arriver, enfin, après 40 minutes.
Aladin Charny, 33 ans, est le fondateur du Freegan Pony.
On va aller voir les différents grossistes bio avec qui on travaille pour voir s'ils ont des choses à jeter aujourd'hui. Donc il y a une chance sur deux qu'ils aient des choses à jeter. Et si c'est le cas, on va charger tout ça dans le camion.
C'est parti.
Direction donc l'un des halls de ce marché international qu'abrite la ville de Rungis, 15 km au sud de Paris. Rungis, c'est le plus grand marché de produits agricoles au monde. Aladin Charny rentre dans un des hangars. À chaque fois que le Freegan Pony organise un repas, il doit en quelque sorte aller faire ses courses à Rungis le matin. De plus en plus de grossistes le connaissent désormais et acceptent de lui donner gracieusement leurs invendus, comme Eddy Amami, responsable d'exploitation chez un grossiste bio.
Là, je te fais des épinards, des tomates, cool. Et un peu de banane, et un peu de pomme verte.
Okay.
Et je te fais de la mayo en haut.
Et des tomates, cœur de bœuf, là-bas, je vois.
Ouais, attends. Voilà. Là, tu prends la palette, de toute façon.
Ouais, on prend le tout,
On est plutôt content là.
Mais oui, c'est assez varié et c'est souvent le cas. C'est les chefs qui vont être ravis parce qu'ils vont pouvoir cuisiner des choses avec beaucoup de variétés. Donc ils vont être contents.
Tout ça, c'est grâce à ce grossiste qui n'hésite pas à donner ses invendus à Aladin. Eddy Amami apprécie la démarche du Freegan Pony.
Toutes les semaines, on a des pertes en produits. Donc plutôt de les jeter, de les mettre en poubelle. Le but du jeu, c'est quand même de faire une redistribution. C'est des produits qui sont très très bons, mais en l'état, ils ne sont pas vendables pour le client. Cette tomate, vous voyez, elle est un peu ouverte là, sur le côté. Celle-ci, elle a un peu des points noirs. Et donc, vous, quand vous allez acheter une tomate, je pense que vous n'allez pas l'acheter, celle-là. Donc, on préfère l'isoler et que les clients aient des produits vraiment très, très beaux.
C'est maintenant l'heure de charger le camion avec les épinards, les carottes, les pommes, les mangues, les bananes ou encore les groseilles. Puis, le véhicule peut repartir de Rungis avec toutes les cagettes. Aladin n'oublie pas de prévenir le chef du soir de l'avancée des courses.
Salut Santiago, donc pour ce soir on a 4 cagettes de groseille, de la tomate, de la mâche, différentes salades, des épinards, des graines de lentilles germées, une demi-cagette de choux cône et du piment, des lentilles, 3 kg de bananes et de la mangue, le tout en bio. Voilà, donc lui il va concocter son menu et à 14h il va me proposer.
Changement de décor, périphérique parisien, porte de la Villette, extrême nord-est de la capitale. Ici, toute la journée, plus de 250 000 véhicules circulent. Et pourtant, c'est la même que le Freegan Pony à ses quartiers. Le restaurant est situé juste en dessous du pont du périphérique. Derrière une imposante porte verte se trouve l'antre de l'anti-gaspillage. Cet ancien lieu de stockage de la voirie parisienne était inoccupé depuis 15 ans, jusqu'à ce que le Freegan Pony s'installe il y a un an, au début sous forme d'un squat. L'immense hangar surprend. Dans la salle à manger, on compte des chaises, des canapés, des fauteuils, un piano désaccordé, un ensemble très baroque accentué par les tapis placés au sol. Tous les meubles et objets de décoration ont été sauvés de la décharge. Dans la cuisine, ouverte sur la salle à manger, une vingtaine de bénévoles s'activent. Ils coupent les mangues, lavent les épinards, épluchent les pommes. Le chef, Santiago Rosero, détaille le menu.
On va faire en entrée une salade avec des tomates et des pamplemousses rôties. Comme plat, des lentilles cuites de façon risotto. Le dessert, une mousse de mangue. Et je vais essayer de faire des bananes flambées.
L'hiver dernier, des migrants venaient régulièrement manger ici. Ce soir, ils ne sont pas là, mais 90 couverts sont assurés. Certains mangent allongés sur des canapés, d'autres sont attablés, comme Raël Agos, 23 ans, qui dévore son entrée.
On gaspille souvent plein de trucs. C'est quand même assez intelligent de récupérer des trucs. Et de toute façon, ils allaient finir à la poubelle. Et en plus, là, je viens de goûter une fourchette de mon assiette. C'est vachement bon. Du coup, je suis ravie.
Venu avec sa femme, ce retraité apprécie également.
Il y a de l'aubergine, il y a des lentilles, d'après ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça, je sais pas.
Des épinards.
Des épinards, voilà. C'est cuit, c'est très bon. On jette vraiment des ingrédients qui sont comestibles. Et des produits légèrement fatigués, il suffit de les cuisiner et ça peut reprendre vie, quoi.
Longue vie justement au Freegan Pony. Le restaurant anti-gaspillage réouvrira ses portes en janvier après une période de travaux. Et il pourrait faire des petits. Certains ici parlent déjà d'ouvrir d'autres restaurants similaires en France comme à l'étranger.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 temps universel. Dans moins d'une minute sur RFI, un nouveau journal.